gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon. Oui, il y a quelqu'un. C'est la causerie. Et oui, 22-23 heures le dimanche sur Radio Canu. Et Jean-Yves qui est là et qui commençait à faire des bêtises pendant le générique. Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir Fabien.
Bonsoir Clara, la technique.
Bonsoir.
Et bonsoir à celles et ceux qui ne sont pas là ce soir. Nadège, Emma, Jonathan et Stan. Voilà, bonsoir à vous.
Ça en fait du monde, dis donc.
Ouais, mais un jour on est tous là, il n'y a plus de place. Il va falloir faire pousser des trucs. Alors, je vais juste dire, oui, il va falloir pousser des trucs et pas les faire pousser. C'était bizarre, ouais. Ma phrase. On est la 148e. Alors, pourquoi je dis ça? Ouais, parce que comme ça, ça place dans le temps. Et puis surtout, ça veut dire qu'on a 3 ans, 1 mois et 1 semaine.
Enfin, qu'on avait... la causerie à 3 ans, la causerie. 1 mois et 1 semaine.
Et qu'on avait oublié de le dire qu'on avait eu 3 ans.
C'est ça, parce qu'elle est contente quand même, la petite. Hein.
Ouais, elle a fait ses dents, ouais. Et tout, maintenant ça va mieux. Ouais. Elle va bientôt rentrer à la maternelle, elle est, ouais, vachement heureuse.
C'est ça, voilà. C'est super.
Et surtout, ses parents sont très fiers d'elle.
C'est super. Voilà. Et ben génial.
Et ben lance-moi, parce que je vais pas le
faire. Ah ouais, non, mais attends, mais avant ça, je vais te donner 2-3 infos.
Ah ouais, ouais.
Si vous voulez contacter la causerie, si vous êtes une asso, des artistes, des collectifs ou autres, n'hésitez pas. Ou si c'est aussi pour faire vos retours sur l'émission, ça se passe plutôt sur le blog, mais le mail, en tout cas, vous pouvez nous y joindre. C'est la causerie canu, tout attaché, @gmail.com.
C'est ça.
Vous pouvez retrouver toutes les causeries sur le blog
à blogs.radiocanu.org/la causerie. Alors, blog au pluriel, blogs.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Je ne sais pas comment le dire.
Ouais. Mais sinon, vous tapez les blogs de Radio Canu, la causerie, sur votre moteur de recherche préféré. Évitez celui qui fait plein de fric et qui a des deux O dans son nom. Et vous nous trouverez.
Voilà, tout à fait. Bon, eh bien, vu qu'on est bien dans les temps et tout, on va essayer de s'y tenir. Et c'est toi, Fab, qui va commencer. Tu voulais nous parler d'un truc dont on a entendu quand même un petit peu parler ces derniers jours.
Panama, Panama. Eh oui, le Panama. Enfin, petit pays, non. Je vais vous parler plutôt de ce qui est lié au Panama que du pays en même
temps. D'accord, je crois qu'on faisait un truc séjour, prochaines vacances. Tout
ouais,
ça.
Non, mais la causerie va faire un jour ça, mais pas tout de suite.
D'accord. Okay.
Voilà.
D'accord.
Pour la 199e.
D'accord.
Soyez là. Donc du coup, je voulais vous parler des paradis fiscaux, parce qu'on entend beaucoup, beaucoup parler en ce moment des paradis fiscaux, et en discutant un peu à droite à gauche, on se rend vite compte qu'en fait, les gens ne savent pas vraiment ce qu'est un paradis fiscal. On en parle, hein, comme ça, on dit « Ouh là là, c'est mal !» Mais en fait, on n'explique pas vraiment ni comment ça marche, ni ce que c'est. Mmh. Alors, je vais commencer par définir ce qu'est un paradis fiscal, en prenant l'exemple du petit Pierre et du petit Paul. Voilà. Alors, vous allez comprendre tout de suite. Hein, voilà. Alors, disons que vous êtes le petit Pierre. Et puis, vous êtes un petit peu un gars qui est bien sympathique. Donc, du coup, vos parents vous donnent régulièrement une petite somme d'argent, qu'on va dire que c'est un petit peu ce que vous gagnez dans la vie, voilà. Mais comme vous êtes bien sympathique, mais que vous êtes un petit peu un racketteur, vous racketez un petit peu du pognon à vos petits camarades à l'école. Voilà. Ça s'appelle être un patron. Et voilà, ou un moins riche, quoi. Et du coup, le petit Pierre, il met d'abord l'argent de poche dans son petit cochon, ouais, la petite tirelire. Mais ses parents, ils surveillent un petit peu sa tirelire, parce qu'ils se disent quand même, il faut faire attention. Et puis... Et puis quand même, ils sentent qu'il y a un truc bizarre avec leur fils. Alors ils se disent, bon, on va quand même jeter un œil sur leur tirelire. Puis le petit Pierre, il est un peu bête, il avait mis l'argent de ses raquettes dans sa tirelire aussi. Et ses parents, ils voient qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Et ils disent, dis donc, d'où que ça sort cet argent en plus dans ta tirelire? Et bien ça, c'est quand il n'y a pas de paradis fiscaux. Mais le petit Pierre, il n'est pas bête. Alors il a compris. Et la fois d'après, où il a le droit de remettre de l'argent dans sa tirelire, il ne met que ce qu'on lui donne. Puis l'argent de ses petits raquettes, il va le mettre chez Paul, son pote. Parce que chez son pote, il sait que sa famille, elle ne regarde pas dans la tirelire.
Est-ce qu'il y a un jeu de mots avec Paul pote?
Non.
Non. Okay, mais on... Pardon.
Mais en le disant, je me suis dit ça.
Non, c'était juste pour la vanne. Voilà. Allez, on se replonge dedans,
donc,
pardon.
Donc le petit ouais. Pierre, il met l'argent chez son pote Paul. Et son copain Paul. Et il sait que chez lui, eh ben, il n'y a pas de vérification. C'est-à-dire que
ses parents,
ils ne regardent pas, ils s'en foutent, okay. Tout ça et tout. Puis en plus, ils disent, bon, c'est pas grave et tout. Et puis, il met de l'argent là-bas. Et ben, en fait, il cache à ses parents le fait qu'ils raquettent. Bah, ils continuent à raqueter. Donc, ils mettent l'argent à l'ombre. C'est ça, un paradis fiscal. Voilà, vous avez compris comment ça marchait un paradis fiscal. Bah, c'est juste quand vous allez mettre de l'argent dans un endroit où il n'y a personne qui regarde ce qu'il y a dedans. Oui. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça que ça s'appelle un paradis fiscal. Aucun rapport avec un truc biblique. Non, c'est juste, voilà. Et alors, après, là, vous voyez, on va arriver à la définition du paradis fiscal. Déjà, on l'a. Puis après, les gens disent souvent, ouais, mais une fois que l'argent il est là-bas, il dort. C'est-à-dire que c'est comme si...
Oui, c'est-à-dire, genre, c'est qu'un endroit où l'argent spécule, en fait.
Voilà, même enfin, pas où on le mettrait à l'ombre, ouais. Et il attendrait patiemment. Mmh. Non, mais vous croyez vraiment que les gens se font chier à mettre des milliards d'euros de côté dans des trucs qu'on voit pas, pour pas s'en servir? Donc, non, en fait, ça bouge. Mais là, je vais reprendre mon exemple de petit Pierre et petit Paul. Bon, vous compreniez comment ça marche. Donc, disons que le petit Pierre, il a besoin de l'argent, comme je disais, du racket là, qu'il a fait, et puis qu'il faut qu'il arrive à récupérer un peu de fric parce qu'il veut se payer le dernier jeu sur la Nintendo, je sais pas quoi, qui est sorti là, et il dit, tiens, bah, je vais aller chercher de l'argent. Alors, il va voir le petit Paul, et puis le problème, c'est que le petit Paul, en fait, sa tirelire, elle a été transférée sur un compte, vous voyez, parce que ses parents, ils ont dit, ouais, ta tirelire, elle est trop grosse maintenant, comme ils mettaient un peu l'argent de tous ses potes dedans, on va t'ouvrir un compte. Alors, il y a un compte qui est ouvert comme ça, et puis il est ouvert au nom de petit Paul. Mais petit Paul, il retire de l'argent liquide qu'il donne à petit Pierre pour qu'il aille acheter son jeu. Parce que c'est l'argent de petit Pierre qui est sur le compte de petit Paul. Vous avez suivi ? Mais personne ne sait du coup que l'argent qui est sorti, c'est l'argent de petit Pierre. Mmh. Et vu que c'est petit Paul qui retire l'argent. Ben ça, c'est comment ça marche un paradis fiscal. Alors je vais un peu moins le schématiser et rentrer dans le détail. En fait, dans la réalité, dans le vrai monde de la vie, là où il n'y a pas de petit Pierre et de petit Paul, mais où il y a des gros salauds, en fait, vous avez un truc au milieu qui s'appelle une banque. Voilà. Parce que les paradis fiscaux n'existent que parce qu'il y a des banques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ne peut exister un paradis fiscal que s'il y a des comptes en banque placés dans ces pays-là. Donc les banques, elles font un truc qui est assez génial. Elles font semblant de respecter la loi. Alors, je vais vous expliquer comment elles font. C'est très simple. Vous arrivez dans une banque, vous dites « Bonjour, je voudrais mettre 360 000 euros de côté, planqué du fisc parce que je ne veux pas payer d'argent dessus. Puis comme en plus je suis pote avec Marine Le Pen, je ne voudrais pas trop que ça se voit. » C'est purement fortuit comme exemple, évidemment. Mmh. Et là, la banque, elle vous dit « Non, j'ai pas le droit de le faire !» Alors là, vous dites « Oh, bah mince, on m'avait dit que vous étiez vachement sympa, la Société Générale. »
Là aussi, hein, là c'est aussi, purement fortuit.
Purement fortuit. Et là, la banque, elle dit « Non, je suis vachement sympa, en fait, mais en fait, je vais pas le faire à votre nom. » Ah, pensez bien. On va passer par un cabinet d'avocats fiscalistes très sympa. Vous allez voir, c'est des potes à moi. Et vous allez leur dire de vous ouvrir un compte au nom d'une société anonyme que vous allez baser dans un paradis fiscal. Là, c'est vrai. Et puis cette société, moi, j'hébergerai son compte dans le paradis fiscal. Et c'est là qu'arrive le Panama. Mais ça marche aussi avec la City à Londres, avec le Delaware aux États-Unis, avec les îles Jersey au-dessus de la France. Ça marche aussi en partie avec la Pologne. Ça marche avec plein de pays comme ça qui ont des zones franches comme ça qui existent. Et donc, ou le Liechtenstein, ou le Luxembourg. Voilà, pour en citer quelques-uns. Et en fait, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que vous avez un cabinet d'avocats qui va ouvrir une société anonyme pour vous, mais c'est les seuls qui savent qui vous êtes. Eux, ils ouvrent la société au nom, je ne sais pas, ils peuvent l'appeler Tartampion Plus, par exemple. C'est une boîte aux lettres, hein, c'est-à-dire que vous ouvrez une boîte postale au Panama. Et puis la banque, elle vérifie simplement qu'il existe bien une boîte postale au Panama, et elle ouvre du coup un compte au Panama pour cette société-là. Et puis bah, les 360 000 euros que vous vouliez mettre de côté tranquillou, vous allez pouvoir les mettre au Panama via ce biais-là. Et vous venez de détourner de l'argent du fisc français. Vous voyez ? Oh, c'est beau ! Alors, je tiens juste à rappeler que c'est légal. Hein. Oui. C'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on croit, on a le droit de faire ça. C'est-à-dire que c'est pas interdit, il y a aucune loi qui interdit de faire ça. La seule chose que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de ne pas le dire. C'est-à-dire que vous pouvez planquer de l'argent, mais vous êtes censé dire au fisc, au fait, je planque de l'argent. Oui, c'est du foutage de gueule, mais cette loi existe vraiment. C'est une loi où on vous dit, vous pouvez ouvrir des comptes dans les paradis fiscaux, mais dites-le nous. C'est quand même un peu surréaliste, hein, mais voilà, on en est là quand même. Hein. C'était la loi Sarkozy contre les paradis fiscaux, vous vous souvenez, il avait dit c'était fini. Voilà, bah, c'est ça la loi. Ouais. Bon, on voit que ça marche hein, d'ailleurs. Donc en fait, voilà. Et alors là, vous vous dites, mais comment ils récupèrent l'argent, les gens ? Eh bien, c'est pas compliqué. La société, elle existe. Toutes les personnes qui ont déjà travaillé dans une grande entreprise savent qu'il existe une chose qui s'appelle la carte affaires. C'est-à-dire que la carte affaires, c'est pas que des grands, des sociétés qui l'ont. C'est simplement une carte qui permet de retirer directement sur les comptes de la société, sur un compte créé par la société, pour la société. C'est notamment les gens qui voyagent beaucoup. C'est les VRP, par exemple, ils ont souvent des cartes affaires parce que leur société, ça leur évite de faire des notes de frais en permanence. Ils payent directement avec la carte affaires et c'est vérifié sur le compte. Ben, en fait, c'est pas plus compliqué que ça. La société bidon, elle va ouvrir une carte affaires à un salarié bidon, qui est vous, et vous allez pouvoir aller retirer votre argent directement dans n'importe où en France, parce que généralement c'est des cartes American Express, parce que ça aussi on oublie de dire qu'il y a un bon système pour American Express derrière, et que ça permet en fait de profiter de votre argent que vous avez détourné. Et en fait pour vous c'est complètement transparent. Alors j'ai cherché un petit peu, il faut 4 jours pour ouvrir un compte dans un paradis fiscal et pouvoir bénéficier de son argent. Vous voyez, c'est pas très long 4 jours, c'est le temps d'émission de la carte. Hein. Donc c'est ça qui ralentit le truc, sinon ça pourrait aller beaucoup plus vite. Donc voilà. Donc ce qui est quand même assez fou, c'est que bah, c'est des milliards d'euros qui sont mis de côté comme ça chaque année, enfin à l'ombre, hein, qui sont planqués en fait. Et en fait, il y a plusieurs études qui ont été faites, dont une qui a été faite par l'OCDE, qui est quand même pas le truc le plus à gauche que je connaisse, qui a dit commence à être inquiétant, c'est que 55% des flux financiers mondiaux transitent par des paradis fiscaux. Traduisons ça, ça veut dire que le capitalisme vit du fait que 55% de l'argent est planqué dans des paradis fiscaux. Alors ça veut surtout dire que quand on ne taxe pas cet argent-là, en fait on taxe les pauvres. Parce que c'est pas compliqué. Tout ce qu'on ne peut pas voir, on ne le taxe pas. Tout ce qu'on ne taxe pas, il faut aller chercher l'argent ailleurs, on va le chercher chez les plus pauvres. Donc toutes les augmentations de taxes et d'impôts ou autres que vous avez pu avoir ces dernières années ne sont qu'une compensation de cette évasion fiscale qui ne fait qu'augmenter. Et oui, ça fait bizarre de le dire, mais en réalité, c'est vrai. Et il y a c'est Oxfam qui a fait une étude. Alors, Oxfam, c'est une grande ONG qui traque tout ce qui est dérive fiscale, qui a fait une étude et qui prouve, en fait, que l'augmentation de la taxation des impôts directs ou de la TVA dans les pays d'Europe est exactement proportionnelle au nombre d'évasions fiscales qui se font. C'est-à-dire qu'il y a une création de richesse qui ne fait qu'augmenter, mais en réalité, elle stagne parce que le reste, tout est planqué. Mmh. Donc, on ne voit pas réellement la vraie augmentation de richesse. Mmh. Ce qui fait qu'en fait, on compense en tapant sur les plus faibles, pour les plus pauvres. Vous voyez ? Donc, c'est à cet aspect-là quand même qui est dégueulasse. Alors, je vais juste te dire aussi une chose, c'est que ça ne touche pas que des grandes sociétés vilaines pas belles ou que des proches de Marine Le Pen ou que des proches de Cahuzac ou autres. Il y a aussi des gens sans scrupules qui sont à la tête d'ONG, notamment Max Havelaar, et qui ont ouvert des fondations au Panama pour pouvoir blanchir de l'argent. Voilà. Alors, ils essaieront de s'en défendre. Hein, c'est la 4e fois qu'ils se font prendre les doigts dans le pot de confiture. Max Havelaar, vous savez, Max Havelaar, c'est le commerce équitable en grande surface, parce qu'ils ne font au départ que pour les grandes surfaces, ou pour une chaîne très humaniste qui s'appelle Starbucks. tout ça, en fait, c'est assez flippant, parce que ce sont des milliards qui sont en fait détournés totalement du bien commun, et qui vont en fait dans les mains de quelques personnes. Et c'est comme ça qu'on arrive à ce chiffre effarant, qui est de dire que 62 personnes dans le monde détiennent autant que 3,5 milliards d'autres personnes. C'est-à-dire que 62 personnes sont aussi riches que 3,5 milliards, 50% de l'humanité. Donc c'est grâce à ça qu'on arrive à ces chiffres-là. Parce qu'il ne faut pas croire, la plupart de l'argent que gagnent les gens est planqué. Planqué non pas d'autre chose que des États. Hein. Mmh. Mais en fait, en réalité, à travers les États, c'est planqué au peuple.
Oui.
Parce que qu'on le veuille ou non, moi je suis pas très étatiste hein, comme gars, mais quand même à un moment donné quand on planque l'argent des yeux de l'État, c'est qu'on veut pas que la majorité des gens sachent ce qu'on a. Oui. Et aujourd'hui on a des milliards et des milliards qui se baladent comme ça, qui servent à blanchir de l'argent en permanence. Alors, il y a des gens qui disent pour sortir de ça, il suffit de créer une nouvelle loi de taxation sur les transactions ou des choses comme ça. Ça marche pas. En fait, à chaque fois que vous faites une nouvelle loi, et c'est d'ailleurs Oxfam qui le dit de façon assez ouverte, elle dit, de toute manière, à chaque fois qu'il y a une nouvelle loi, comme de toute façon la création de monnaie est dans les mains des banques, eh bien les banques trouvent un système qui permet encore de détourner les choses.
Bien sûr.
Et en fait, c'est sans fin. C'est ces systèmes-là, ils s'auto-alimentent en permanence. Et en réalité, je vais faire mon révolutionnaire de base, mais il n'y a pas 36 solutions, il faut se réapproprier les moyens de production. C'est-à-dire que tant que les moyens de production sont dans les mains de ces personnes qui planquent de l'argent, eh bien de toute manière, elles en tireront toujours le plus gros fruit et les plus gros bénéfices. Donc si on ne va pas vers une réappropriation des moyens de production, et à un moment donné, je vais dire un gros mot pour les capitalistes, vers une collectivisation des besoins et des moyens, eh bien en réalité, on ne sortira jamais de ce cercle vicieux. Je voulais juste rappeler que le premier système d'évasion fiscale date du 7e siècle, enfin le premier écrit date du 7e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque où les Romains taxaient l'état d'or qu'avaient les rois telets dont ils prenaient le territoire, parce que les Romains se sont étendus, et donc quand ils arrivaient, ils prenaient 60% de la richesse d'être du tas d'or que la personne avait. Et en fait, il y a à l'époque l'équivalent d'un banquier aujourd'hui qui avait trouvé un système pour un roi qui était sur la mer Égée. Il lui avait dit, tu sais quoi, tu prends des tas d'or, tu les mets dans des bateaux, tu les mets au milieu de la Méditerranée, enfin de la mer Égée, et t'attends que le contrôleur de Rome passe, tu gardes un petit peu d'argent, hein, pour lui donner 60% de ce qui reste, et quand il est parti, tu ramènes tout chez toi. Ben, ça s'appelle de l'évasion fiscale. Vous voyez, c'est pas nouveau, c'est pas super, super novateur, mais c'est surtout que c'est lié à tout système marchand au final et à tout système monétaire qui fait qu'au final, on cherche toujours des moyens de mettre à l'ombre de l'argent. Et quand c'est chez les très très riches, bah, ça fait très très mal. Je vais juste donner un dernier chiffre et après j'aurai fini. Je rappellerai juste, c'est un chiffre qui moi m'a vraiment vraiment surpris. Il est mis de côté chaque année, dans les paradis fiscaux, de quoi nourrir 1700 fois la planète. Voilà. C'est un chiffre hallucinant, hein, parce qu'en fait, on estime que pour éradiquer la faim, il faut 50 milliards de dollars. Et il y a 1700 fois ça qui transite par les paradis fiscaux, a priori, chaque année. C'est juste effarant.
Voilà. Ah oui, oui. Il y a plein d'autres exemples.
Oui, mais je trouvais que ce chiffre était très parlant. Voilà.
Mais en plus, ce qu'il faut aussi relever, c'est que normalement, si on écoute les politiciens et politiciennes françaises, il n'y a plus de paradis fiscaux. Parce que le Panama avait été enlevé de la liste noire des États.
En fait, cette liste, elle est totalement bidon.
Oui.
Parce qu'elle repose sur des critères non objectifs. En fait, c'est juste ça, cette liste, elle est diplomatique. C'est-à-dire qu'en gros, vous arrangez avec l'État. Vous savez, le Vatican a été retiré des paradis fiscaux, alors que le Vatican n'a pas changé ses modes de calcul et ses pratiques réellement en termes de banque. Pareil pour la Suisse, il a fallu lui tordre le bras pour que finalement elle finisse par dire des choses. Et quand je parle de tordre le bras, c'est carrément des grands États qui ont menacé de porter plainte contre la Suisse au niveau international pour avoir des données. C'est-à-dire qu'au final, c'est plutôt une pression diplomatique, mais encore une fois, elle est à sens unique. C'est-à-dire, par exemple, c'est les États-Unis qui ont fait pression sur la Suisse parce qu'ils avaient besoin d'avoir des informations sur des choses qui les concernaient. Mais ils n'ont pas fait pression pour qu'ils donnent les fichiers de tout ce qui transitait chez eux.
Bah oui, surtout qu'en plus, voilà. Les États-Unis ont aussi le Delaware.
Oui, parce qu'en réalité,
un État américain.
Ah, ouais. Il y a un jeu géopolitique. C'est-à-dire que les paradis fiscaux, ça arrange les capitalistes. Ils aiment en avoir. C'est pour ça que les États-Unis font pression sur la Suisse, sur le Panama, sur autres. C'est simplement parce qu'eux, ils ont un paradis fiscal qui est le Delaware et qu'ils veulent en fait que les entreprises viennent dans le Delaware en fait. C'est juste ça en réalité, c'est qu'ils veulent avoir le plus gros tas d'or. On est toujours sur ces logiques-là. Penser qu'il y aurait des États qui seraient plus scrupuleux que d'autres ou je ne sais quoi dans un système capitaliste, c'est juste un petit peu s'illusionner. Je tiens juste à rappeler comme ça que la Chine, quand elle a repris le contrôle plus ou moins de Hong Kong, qu'elle a pris plus ou moins le contrôle de Hong Kong, il y a une chose qu'elle n'a pas enlevée à Hong Kong, c'est le paradis fiscal. Pourtant, c'est un pays communiste, il paraît, non ?
Oui, c'est ça.
Je vous jure, mais tout se perd, mon brave monsieur.
C'est ça, tout se perd.
Voilà, c'était un petit point sur les paradis fiscaux.
Ben oui, c'est toujours bon de se rappeler
que... Petite question, quelque chose ? Non, ça va ? Clara ?
C'est bon.
C'est bon ? Oui.
Nous avons bien reçu les informations.
Non, c'était parce que c'est du vinyle, je ne savais pas si c'était prêt ou pas.
Comme ça.
Ah, voilà.
Oui, c'est ça.
Donc, je ça va, tout
oui, très bien, bon. Merci.
Eh ben, c'est parti.
Bon, ben, allons-y alors.
Et oui, c'est bien la causerie, le dimanche de 22 à 23h sur Radio Canu. Et tu viens d'entendre un titre qui s'appelle « Ça ressemble à de la crème aux œufs ». C'est franchement pas mal comme titre. Et c'est issu de l'album « Pointe du lac » de Julien Leuillier. Alors je sais pas si c'est dit Leuillier ou Leuillier. Et c'est une réédition chez Gonzai Records. Et franchement, c'est très très bon. Voilà. Et elle n'existe qu'en vinyle, par contre. Et c'est pas mal.
Ouais, c'est bien, sympa.
Ouais. Et donc Jean-Yves, toi tu voulais nous parler de quelque chose qui n'existe plus évidemment et que tout le monde sait qu'en France on ne fait plus ça, l'éducation religieuse à l'école.
Oui, tout à fait, c'était pour vous annoncer qu'il y avait une promo sur les cours de religion. Non, je déconne, enfin. Non, oui, effectivement, c'était. Je voulais vous parler, alors on va parler justement d'un appel qui a été lancé, mais je voudrais un peu élargir autour de tout ça. Donc voilà, on y va. Alors, le 5 avril, effectivement, il y a eu un collectif d'organisations laïques et des instances éducatives du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle qui a réclamé la fin de l'enseignement religieux obligatoire à l'école en Alsace et Moselle. Alors, parmi le collectif, en fait, il y a la FSU, l'UNSA, la Ligue des droits de l'homme, la Ligue de l'enseignement et encore d'autres assos et collectifs. Donc voilà, cet appel, alors je ne vais pas vous le répéter en entier, mais comment je peux dire ça ? Je vais vous lire le début. Donc aujourd'hui encore, en Alsace et Moselle, l'école publique n'est pas laïque. Dans le cadre du statut scolaire local, l'État y organise l'enseignement religieux avec les cultes reconnus, catholiques, protestants, israélites, dans les locaux et sur le temps scolaire. Il rémunère les intervenants de religion aux frais de tous les contribuables de la République. Et eux, ils dénoncent en fait le côté les non-conformités constitutionnelles, on va dire, qui pour eux sont la liberté de conscience, la neutralité et l'égalité.
Qui sont réaffirmés dans les lois de l'éducation nationale aussi, enfin, qui entourent l'éducation nationale.
Ok. Et donc voilà, et puis il termine en disant qu'en 74, déjà les instituteurs ont obtenu la liberté de ne pas enseigner la religion à l'école publique en Alsace et Moselle. Et donc aujourd'hui, ils demandent à voir ces avancées, ils appellent à l'État, de faire respecter les trois principes que je vous citais juste avant. Et que tout ça soit mis en œuvre en fait dès la rentrée 2016. Tout ce qui est autour de rendre l'enseignement religieux optionnel, parce que là il est obligatoire, je vous détaillerai un petit peu après, et que aussi ces cours religieux soient en dehors en fait de l'horaire dédié aux enseignements de l'éducation nationale.
Parce que ça veut dire donc, qu'en Alsace-Moselle,
c'est ça,
les enfants ont moins d'heures de cours généraux.
Ouais.
Et au profit de cours de religion.
C'est-à-dire que l'heure de religion, en fait, il y a 24 heures de
cours par semaine.
De cours par semaine, et il y a une heure obligatoire de religion, normalement sur ces 24 heures, ce qui sur l'année fait 180 heures.
De perdu. Par rapport à un élève qui, lui, serait en dehors de l'Alsace et de la Moselle.
C'est ça. Moi ce que je voulais un petit peu aller au-delà parce que finalement quand j'écoute même les plus rebelles que je peux entendre, il n'y a plus de problème de religion en France, en tout cas de pouvoir de la religion, sauf qu'en fait c'est là aussi où ils se trompent. Leur petite France qu'ils aiment tant à dénoncer n'est pas si homogène qu'ils ne pensent. Il y a des territoires effectivement où il y a encore le concordat. Et donc moi ce que je voulais un peu rappeler, c'est quoi le concordat, etc., comment ça s'est mis en place et pourquoi l'Alsace et la Moselle sont encore sous ce régime là on va dire. Donc ça commence à la Révolution, qui n'était pas vraiment populaire. Donc en 1789, lors de la Révolution, effectivement, comme je vous le disais, il y a eu la confiscation des biens de l'Église catholique. Donc là, on a dit, ce qui était à vous est à nous. Voilà. Et en 1795, il y a les députés de la Convention qui votent une loi en fait, pour interdire les subventions publiques à tous les cultes. Okay.
C'était les prémices de la loi de 1905. On voit que
C'est ça. Sauf qu'entre-temps, il y a un petit gars dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière, qui s'appelait Bonaparte, qui lui, en fait, pense que la religion, ça permet quand même d'assurer l'ordre, parce que le clergé, en fait, il peut encadrer la population, surtout quand il reçoit des directives des gouvernements, du gouvernement. Et donc, Bonaparte, ce cher et tendre, bien évidemment, décide alors d'entrer en relation avec la papauté pour rétablir le culte catholique. Donc, c'est déjà... c'est un retour quand même en arrière. Donc c'est quand même très drôle. Enfin, je pense toujours encore une fois à ces gens qui aiment bien défendre les religions. Regardez un peu ce que vous défendez aussi des fois et par qui elles se déportaient les idées. Et donc dès 1800, bah Bonaparte en fait, lui, il ouvre des négos directs avec la papauté.
Et bah, c'était aussi pour dans le cadre de devenir empereur. Parce que ça allait de pair. Hein.
Bah, les religions pour le pouvoir, ils sont jamais très loin. Et donc, le 17 juillet 1801, le concordat est signé. Ok. Alors, les clauses de cet accord, en fait, elles concernaient d'abord, effectivement, les rapports de l'État et de l'Église catholique. Mais ensuite, ça s'est étendu aux confessions protestantes et juives. D'accord ? C'est bon pour vous ? Mmh. Ok. Et alors donc, ce concordat, en fait, il restera en vigueur jusqu'en 1905. Apparition de la loi de la séparation de l'Église et de l'État. Mais par contre, en Alsace, ça reste. Alors pourquoi ? C'est parce que en 1905, l'Alsace et la Moselle étaient sous... comment on peut dire ? Bah, ils étaient allemands.
Mais ça appartenait au...
La région était placée
ouais,
sous...
Ouais, ça date de 1870, c'est, c'est de la guerre prussienne, comme on dit, voilà.
C'est ça. Ok, on y est bien ? Tout le monde suit ?
Ouais.
Ok. et donc, j'en étais où ?
Donc l'Alsace et la Moselle, en 1905, ne sont pas françaises, de fait.
C'est
le
ça.
Le territoire n'est plus français.
C'est ça.
Donc elles ne sont pas soumises à la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État.
C'est ça. Voilà. Et quand l'Alsace et la Moselle reviennent, redeviennent françaises, ces régions...
Après la Première Guerre mondiale.
C'était après la Première Guerre mondiale. Eh ben, les Alsaciens en fait, ils ont un peu, ils étaient un peu, ils comprenaient pas vraiment pourquoi ils voulaient faire sauter le Concordat, etc. Il y a eu, c'est ce qu'ils disaient, enfin, ce que j'ai retrouvé, il y a eu de vives protestations.
Il y a eu des révoltes.
Des Alsaciens,
hein. Enfin,
dont l'élan laïque avait été bien moins fort, en fait, ouais. Ils disaient dans les années 1900. Voilà.
Il y a eu des marches et tout. Il y a la grande marche de Strasbourg qui date de 1919, si ma mémoire est bonne, qui remplissait les rues en disant ils veulent tuer nos curés, quoi. C'est un truc surréaliste, hein, quand même.
C'est ça. Et donc, alors je voulais quand même rappeler un petit peu quand même la fin du Concordat, donc, mais qui n'a pas terminé, lui, en Alsace. La fin du Concordat, c'est donc la proclamation de la liberté de pensée, de conscience, pardon. C'est ce qui pose aussi le principe de séparation de l'Église et de l'État, mais garantit en même temps le libre exercice du culte.
Mais qui pose quand même en préambule le fait qu'on peut être athée.
C'est ça.
Parce qu'on va rappeler qu'avant 1905, dans un concordat, l'athéisme n'existe pas.
Ah bah non,
en fait.
Non.
Vous êtes obligé d'adhérer à une religion.
Bah c'est un peu ça, oui.
Un peu comme aux États, enfin, un peu comme la vision américaine ou la vision allemande, vous savez, où vous êtes obligatoirement affilié à une religion.
C'est
en fait.
Exactement ça. Et donc, voilà, il y a des choses qui sont... effectivement, c'est garantie le libre exercice du culte et institue donc des aumôneries dans les casernes, les lycées, les prisons, les hôpitaux, quand même pour garder une présence des religions, enfin de la religion, dans ces lieux-là, quand même.
Dans les casernes, le sabre et le goupillon, généralement.
C'est ça. Et par contre, les biens comme les hôpitaux et les écoles sont affectés à des établissements publics, d'utilité publique, et voilà. Et donc, les seules choses qui étaient pour permettre, en fait, de restituer uniquement les choses qui étaient vouées à la célébration du culte à l'Église. Hein. Et j'ai retrouvé aussi cette petite anecdote, c'était en 1906 en fait, lorsque les préfets sont contraints d'utiliser la police et l'armée pour faire l'inventaire des biens de l'église, donc c'est qu'il y avait protestation hein, des défenseurs de l'église, il y avait le journal satirique L'Assiette au beurre, qui aujourd'hui je pense serait incendié, se moque en fait de cette dispute entre le sabre et le goupillon. Et il y a un officier qui déclare « Je peux pas enfoncer la porte, le portail d'une église où se trouve le Saint-Sacrement. Je n'ai jamais enfoncé que les portes des bourses du travail. » Et je trouve que c'est très très fort parce que justement, c'était une des confrontations, une des premières confrontations finalement entre un pouvoir central et dire à l'église « Tu rentres dans ton petit truc et tu fais plus chier l'espace public. »
Oui, il ne faut pas oublier que 1906, pour les Lyonnais, c'est l'année où la Bourse du Travail de Lyon avait été fracassée parce qu'on cherchait les villes saboteurs anarchistes qui étaient dans la Bourse du Travail et ils étaient venus les chercher à la baïonnette ou au fusil. Ouais. Vous voyez, donc c'était une belle illustration.
Et donc, alors, j'en reviens. Alors, je termine cette petite phase là sur cette séparation de l'Église et de l'État pour en revenir aujourd'hui à l'Alsace-Moselle et pour rappeler qu'en fait là-bas, toujours et encore, l'enseignement religieux à l'école est obligatoire.
Alors obligatoire, ça veut dire qu'il faut dire si on ne veut pas y aller.
C'est ça. C'est-à-dire que
sinon, il est donné automatiquement.
Ah, mais c'est-à-dire que si tu ne dis pas je ne veux pas participer à tes cours de, bah tu es compté comme absent.
C'est-à-dire que donc en fait tu peux être sanctionné.
Oui, il y a eu une sanction. Alors c'était en 1999, je crois. Je sais plus dans quelle ville où une collégienne, je crois, n'allait pas en cours de religion. Et en fait, ils ont voulu supprimer la cave, je crois, de cette mère en fait, parce que sa fille manquait à l'école. Sauf qu'en fait, c'était cours de religion qui, pour elle, n'était pas selon elle, n'était pas obligatoire au départ, quoi.
Et alors, on va révéler quelque chose à nos auditeurs. Toi qui as vécu là-bas.
Ouais.
Quand tu étais enfant,
oui.
Est-ce que tu savais que c'était que tu pouvais ne
pas y aller ? Absolument pas.
Est-ce qu'on te dit, est-ce que tes parents sont d'accord pour que tu sois là ?
Ah mais absolument pas. Enfin de toute façon c'est tout là l'affinité entre l'État et le religieux, etc. Parce que je pense que foncièrement les États sont bien contents quand les religions sont présentes parce que ça atténue, ça fait taire un peuple et ça les fait prier plutôt que de se révolter. Et que bah, toute cette ignorance, elle est entretenue, je pense vraiment. Je pense qu'elle est entretenue. Après, moi, j'avais des potes des potes meufs aussi qui allaient pas en cours de religion et je l'ai découvert au collège, quoi. D'un coup, je leur ai dit.
C'est là qu'on t'avait jamais dit que tu pouvais ne pas y aller.
Jamais. Ouais. Jamais. Alors après, on pourrait me dire que ça relève des parents de dire ça. Peut-être. Mais en même temps, on peut aussi se dire que l'éducation nationale peut aussi dire à un moment donné, en fait, ces cours-là ne sont pas obligatoires. Si vous ne voulez pas les suivre, enfin.
Mais je trouve qu'il devrait y avoir quelque chose d'incluant pour l'élève. C'est-à-dire qu'on lui dise, est-ce que tes parents sont d'accord pour que tu viennes au cours de religion? Je sais, c'est Alors moi, déjà, je suis pour qu'on l'enlève, hein, tout ça. Bah, mais je trouve que même que ça ne soit pas fait, c'est très révélateur.
Ah, mais
parce
oui,
ce tout petit truc qui coûte rien n'est pas mis en place.
Ah, bah oui, oui. Ouais. Donc on en revient à toujours aujourd'hui, hein, donc en plus de l'enseignement religieux à l'école qui est quand même obligatoire. Il y a aussi la rémunération des curés, rabbins, prêtres et financement des travaux des lieux de culte, toujours et encore en Alsace-Moselle. Alors je voulais aussi dire que en fait l'islam n'est pas intégré dans ce processus de concordat parce que à l'époque l'islam en fait c'est ce qui était dit, c'est qu'à l'époque l'islam en fait n'était pas présente en fait sur le territoire Alsace-Moselle.
Elle était présente partout en France, mais en réalité elle était ultra minoritaire.
Ultra minoritaire, donc on l'a pas regardé.
Et surtout, elle était vue comme on est en 1900, elle était vue comme la religion des indigènes, donc on n'en prenait même pas du tout compte quoi dans tout ça quoi.
C'est ça. Et puis bah il y a aussi c'est le président de la République française, le bien nommé, qui lui nomme l'archevêque de Strasbourg et de Metz aussi. Donc c'est voilà.
Là, tu dis que François Hollande nomme l'archevêque.
C'est ça. Alors bon, c'est souvent le Vatican qui dit bon.
Je voudrais bien que ce soit lui.
Oui, pour être sympa, si tu veux le mettre. Mais quand même, ça veut toujours dire que c'est effectivement cette soi-disant république une et indivisible, etc., qui ne s'occupe pas des faits religieux. Bah là, elle l'organise quand même, quoi. Donc voilà, c'est quand même assez problématique. Et alors quelque chose qui relève pas du concordat à proprement parler, mais qui relève du droit local là-bas en Alsace-Moselle, c'est le délit de blasphème. Il est encore existant, la loi existe toujours. Alors elle est héritée du code pénal allemand, pardon, et ça date, comme tu le disais, en 1871. Et ce délit, c'est celui qui aura causé un scandale en blasphémant publiquement contre Dieu par des propos outrageants, aura publiquement outragé un des cultes et passible de 3 ans de prison. Voilà. Et alors, c'est aussi ça que je veux rappeler. C'est qu'il y a des politicards qui utilisent en fait cette confusion entre droit local, parce que le droit local, il y a ce délit de blasphème, mais il n'y a pas que ça non plus, hein, il y a des choses plus positives.
Il y a 2 jours de congé.
Il y a 2 jours de fériés supplémentaires. Alors c'est des jours religieux aussi, hein, qui sont liés à la religion.
Mais alors, qui existe quoi.
Mais moi, en tant que travailleur, c'était 2 jours où je travaillais pas. Et ça, c'était vachement bien. Et il y a aussi une sécurité sociale dont le remboursement est plus élevé. En Alsace-Moselle, c'est 90% de remboursement. Et j'ai envie de dire, comme on disait là-bas, en France, c'est seulement 70%. Donc voilà. Et pour revenir sur ce délit de blasphème, il y a des associations, des partis politiques qui savent très bien que ça y existe encore. Et c'est là-bas notamment que certains ont essayé de traîner Charlie Hebdo, mais je me demande si Ciné n'a pas aussi eu des emmerdes.
Il y a eu Ciné, il y a eu Zélium, il y a eu Charlie Hebdo.
Voilà,
eu...
donc c'est-à-dire que de ces superbes associations...
Et le Canard Enchaîné aussi.
Le Canard Enchaîné aussi. Donc des associations, souvent... Alors j'ai vu ça aujourd'hui, enfin, souvent d'extrême droite ou religieuse, bon, souvent ça se lit un petit peu quand même. Donc et elle profite en fait de cette merde-là, qu'est ce délit de blasphème en Alsace, pour aller porter plainte là-bas, pour essayer de faire valoir le délit de blasphème. Donc voilà.
Ça, il faut aussi l'abroger.
Ah mais c'est tout le truc, c'est justement ça, c'est un peu moi mon petit truc que j'aurais à dire sur cet appel qui est fait du 5 avril là, de ce collectif. Je trouve que c'est très bien de demander la fin des cours de religion, mais c'est
fondamental.
C'est fondamental. Par contre, effectivement, selon moi, ça va pas assez loin.
Oui. Mais toi, t'es un petit peu un anticlérical militant.
Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Mais effectivement, c'est pour ça aussi que ça m'intéressait d'en parler. C'est parce que souvent, on a l'impression de vivre dans un pays où la religion, c'est jamais un problème et que...
Non, et on va rappeler que c'est pas que l'Alsace-Moselle. Il y a aussi des arrangements à Mayotte. Ouais. Il y a aussi des arrangements en Guadeloupe. Il y a aussi des arrangements à La Réunion. Oui. Il y a des arrangements assez hallucinants en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire où carrément on fait prévaloir le droit tribal sur le droit républicain. Quoi qu'on pense de droit républicain, mais c'est quand même un peu flippant. Donc voilà. Et tout ça, ça vient en fait de petits arrangements avec les grosses religions locales. Mmh. Parce qu'en fait, ça aurait été à chaque fois, c'est des potentats religieux locaux. Bah, alors à Mayotte, c'est plutôt les musulmans. En Nouvelle-Calédonie, c'était plutôt le droit tribal qui est tenu en fait par une religion dont j'ai perdu le nom, pardon, qui était voilà. Et on voit qu'à chaque fois, c'est l'État s'arrange avec le troisième pouvoir d'oppression, c'est-à-dire la religion.
C'est exactement ça. Et que justement, enfin, moi, j'étais tombé sur en 2012 des autres personnes qui dénonçaient justement le concordat dans sa totalité, et pas uniquement les cours de religion. Qui est aussi effectivement contre la rémunération des curés, des rabbins, des imams, enfin pas des imams mais des prêtres.
76 millions d'euros par an.
C'est ça. Donc voilà, donc je voulais en parler parce que je me suis dit aussi, et je m'interroge sur la réponse que par exemple moi je peux avoir en tant que canard, parce que je vais plutôt me définir comme ça, et que du milieu aussi dans lequel je traîne, c'est qu'on va souvent dire on demande rien à l'État, et qu'en même temps, moi j'ai envie de dire donc on demande rien à l'État, mais on est pour que les gamins et les gamines continuent d'avoir du lessivage de cerveau, parce que quoi en fait ? Parce qu'il faudrait rien demander à l'État ? Ça me pose quand même un petit léger problème, et que par contre, là encore une fois, on laisse le religieux bien tranquille, il faudrait surtout froisser personne, hein, parce que le grand méchant État, c'est bien simple, c'est bien facile derrière nos petits trucs, mais le pouvoir religieux, lui, ça fait un peu plus flipper. Hein.
Faut noter quand même que sur place, il y a Alternative Libertaire, une partie de la Fédération Anarchiste aussi, qui appuie ces demandes-là en disant... Enfin, je dis une partie de la Fédération Anarchiste ou une partie des Alternatives Libertaires, enfin, les gens qui sont sur place, qui eux disent il y a urgence, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à dire faut tergiverser 3 ans à se demander si on doit demander ou pas à l'État. Ils disent non, là, il y a quand même des gamins à qui on lave le cerveau 1 heure par semaine et il faut faire quelque chose, quoi. Voilà. Et je pense que c'est une position qui me semble plutôt réfléchie.
Voilà, donc c'est pour celles et ceux qui pensaient que la lutte anticléricale était un truc passé ou qui était je ne sais quoi, renseignez-vous un peu, même dans le territoire dans lequel vous vivez, les religions, elles ont encore du pouvoir. Voilà. Bon, allez, un deuxième vinyle, c'est parti.
Bon, eh ben, ça marche pas. Alors... Là, je meuble. Vous voyez, je vais vous raconter ce qui se passe. Alors, il y a des gens, ils ont couru vers un vinyle parce que le vinyle ne s'est pas enclenché correctement. Et là, d'un seul coup, ils essayent de le faire fonctionner. Va-t-il marcher ? Oui ? Non ? Ah, il y a du son. Je crois qu'il se passe quelque chose. Il n'y a rien qui sort. Bien. Eh bien, nous allons passer. Ah, ça y est, ça marche. Still happy, call me Bruce, they call me Lucy. I'm just me like AOP. Keep my
Keeping my head low. Easy fit, I'll fight you back. This missy has a pop on track.
On est de retour après nos mésaventures vinilesques. Et ben on vient de s'écouter, pardon, c'est toujours la causerie sur Radio Canyon 102.2 ou sur radiocanyon.org. Et on vient de s'écouter Pop Gun Track de Lynn Cobain. Et j'en profite pour dire qu'on n'entendra plus de nouvelles créations d'elle.
Non, mais oui,
elle est décédée enfin, d'un cancer, etc.
Il y a quelques semaines.
Et que ben.
C'était une artiste que j'aimais beaucoup.
Ouais.
Voilà.
Grave.
Et, voilà. Bon, et comme elle le disait elle-même, c'était la chinoise qui chantait le mieux en danois. Parce qu'elle était du Danemark. Voilà.
C'est ça. Et ben Fab, mode marathon. Non, c'est pas
c'est
pour toi le marathon. Et
3, 2, 1.
Tu vas nous parler de racisme en médecine.
Oui, alors en fait, je vais dire donner mes sources et tout. Ça vient de Slate qui a fait, donc qui est un site internet, qui a relaté une étude qui a été faite. En 2000, qui est repartie de cette étude-là et d'une nouvelle étude qui a été faite cette année. Donc en 2000, il y a une étude qui avait été faite aux États-Unis dans un hôpital d'Atlanta. Alors Atlanta, on va rappeler, c'est le sud des États-Unis,
sud-est
des États-Unis, où en fait ils avaient remarqué que 74% des patients blancs recevaient des antidouleurs en cas de fracture des os et que 50% des patients noirs seulement en recevaient. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il y avait 25% de patients qui avaient mal mais qui recevaient rien. Voilà. Et donc, cette étude, elle était restée un peu lettre morte jusqu'à ce que il y ait des chercheurs de l'Université de Virginie, University of Virginia, en anglais, en très mauvais anglais, qui ont décidé de refaire, en fait, réapprofondir cette étude, parce qu'en fait, ils se sont dit, mais on ne peut pas rester sur ce chiffre-là et se dire, tout va bien.
Ok,
quoi.
Super, merci.
Et c'est ce qu'on avait fait depuis 2000 quand même. Ouais. Hein. Donc du coup, ils ont pris 222 étudiants et internes en médecine. Alors je vais préciser tout de suite que dans ces 222 étudiants et internes en médecine, il n'y a pas que des blancs. Il y a des blancs, des noirs, des hispaniques, des sino-américains. Et ils ont posé des questions sur ce qu'ils pensaient de 15 différences physiologiques entre blancs et noirs. Et ils leur ont demandé, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, il y a des trucs où c'est arrivé à 0%, hein, du genre les noirs n'ont pas d'âme. Ça, personne n'a répondu oui. C'était déjà une assez bonne nouvelle. voilà. Mais par contre, il y en a d'autres où c'était plus flippant. Alors, par exemple, il y a 58% des apprentis médecins pensaient que la peau des noirs était plus épaisse que la peau des blancs. Alors ça, déjà, ça a fait un peu peur parce que ça influe sur leur façon dont ils vont pratiquer la médecine.
Évidemment.
Et 39% pensaient que le sang des Noirs coagulait plus vite que le sang des Blancs. Alors j'ai retrouvé l'étude parce que là on donne des chiffres moyens. En fait, ces croyances-là étaient y compris partagées par des Afro-Américains qui faisaient médecine. Mmh. Donc c'est là que ça devient un petit peu problématique, c'est que c'est vraiment ancré dans l'imaginaire collectif américain, et notamment du sud des États-Unis. Et c'est pas juste ancré chez les Blancs. Voyez, même si c'est plus marqué chez chez les Blancs, et que du coup c'est problématique parce que du coup ça veut dire que ça entraîne des choses qui vont être à grande échelle. Mmh. Voyez, parce que, voilà. Et 20% pensaient que les nerfs des Noirs étaient moins sensibles que ceux des Blancs. Voilà. Alors que dans tous ces cas, il n'y a aucune différence réelle, hein, notable. Mmh. Alors il faut noter que pour l'histoire des nerfs et pour l'histoire de la peau, ça vient de l'esclavage directement. Hein, ça s'est prouvé. C'est d'ailleurs ce que les esclavagistes disaient, c'est qu'on pouvait fouetter des Noirs parce qu'en fait ils avaient la peau plus épaisse que les Blancs et qu'ils saignaient moins longtemps parce que leur sang coagulait plus vite et que de toute façon ils ne sentaient pas la douleur. Vous voyez, c'est les trois thèmes que
tu les retrouves.
On les retrouve. Donc du coup, on voit que ça vient du passé esclavagiste qui a fait rentrer dans l'inconscient collectif une part de racisme latent qui est partagée et qui est partagée en plus. Plus largement que ce que pensaient ces sociologues, psychosociologues, pardon, oui. Parce qu'ils pensaient en fait que c'était uniquement la population blanche qui avait des préjugés. En fait, ils se sont rendus compte que même si c'était moins marqué, je le redis, parce que c'est plus marqué dans la population blanche, oui, mais par contre, on le retrouve chez les hispaniques et chez les sino-américains. Et qu'en fait, finalement, il y a du racisme qui se partage comme ça, enfin des idées racistes et racialistes qui se partagent et qui viennent un petit peu à s'exporter dans des couches de la population. On n'imaginait pas qu'elles avaient fini par rentrer. Et là où ça les a le plus surpris, c'est que, y compris chez les Afro-Américains, certains partageaient ces croyances, qui ne sont que des croyances. Hein, oui. Voilà. Et que là, en fait, voilà. Ils se sont posés la question. Alors du coup, ils se sont dit, mais si des étudiants en médecine pensent ça, est-ce que ça a un impact sur la façon dont ils pratiquent la médecine quand ils sont de garde à l'hôpital? Parce que c'est ça qui est intéressant. Donc ils ont repris les 222, puis ils ont réélargi à plus de médecins pour suivre un peu ce qui se passait dans les hôpitaux. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait un vrai problème, parce que quand ils prenaient ça, ils ont soumis en fait des cas à des étudiants en médecine, des internes en médecine. Alors, ils sont passés de 222 à 1000 pour avoir des cas un peu plus larges. Et ils leur ont proposé des cas de polytraumatisés. Donc, ils ont dit, voilà, c'est pas compliqué. Il y a un accident de voiture, la personne a deux os cassés, le bras gauche et la clavicule droite, et elle arrive aux urgences de l'hôpital après avoir potentiellement traversé le pare-brise. Vous voyez, donc, c'est très clair, c'est une fiche
cette situation-là, voilà. Qu'est-ce que vous faites?
Et ils ont proposé la même situation avec un patient blanc et un patient noir, à ces 1000 personnes. Et bien, ils se sont rendus compte qu'en fait, invariablement, il y a des différences qui se notent sur la façon dont les gens appréhendent le patient. Chez le patient blanc, on va lui donner très très vite des antalgiques, on va faire très attention à la coagulation du sang, et on va lui demander comment il ressent la douleur. Chez le patient noir, en moyenne, le premier acte qui est fait, c'est retourner le patient pour vérifier les plaies, ce qui n'est pas fait sur le patient blanc. Sur le patient blanc, c'est fait quand on lui a donné les antalgiques. Oui. Vous voyez, on retrouve cette idée que les Noirs souffrent moins que les Blancs. Et donc, qui est une idée fausse, hein, je le rappelle, est l'idée qui est dans la tête de ces étudiants. Alors, pas chez tous, mais chez une grosse partie. Et là où, en fait, c'est intéressant, c'est qu'en fait, l'étude, elle ne va pas prouver qu'il y a une relation directe de cause à effet, c'est-à-dire entre les pensées racialistes ou racistes et la façon dont on pratique la médecine. Mais elle prouve qu'il y a une piste à creuser. Et qu'en fait, ces sociologues et psychologues préconisent qu'en fait, dans les cours de médecine, soient réaffirmées des choses très basiques. Alors quand on dit ça, ça paraît bête, mais par exemple, ils disent, oui, il va falloir redire qu'il n'y a aucune différence d'épaisseur de peau, que vous soyez afro-américain, sino-américain, européano-américain, enfin je ne sais plus comment ils disent, caucasien là-bas, ils disent, ouais, et qu'en fait, il n'y a pas de différence. Et en fait, c'est plus dit dans les cours de médecine parce que c'est une évidence. Sauf qu'en fait, l'évidence, c'est qu'il faut revenir dessus. Donc ils disent, il faut arrêter de croire que tout est balayé parce que les gens font médecine et qu'ils seraient d'un seul coup pas racistes parce qu'ils ont fait médecine. C'est pas vrai. Ils disent que les préjugés raciaux perdurent, continuent malgré le fait de faire des études, et en l'occurrence d'arriver à un niveau de bac plus 8 hein, quand même à la fin de ces études. Et qu'en fait, au final, il va falloir refaire des cours pour déconstruire les clichés. Et alors attention, ils vont plus loin parce que dans une autre étude que j'ai lue, ils disent que non seulement il y a ça, mais alors il y a aussi la même chose pour les femmes et les nourrissons. C'est-à-dire qu'il y a encore des croyances sur le fait que les femmes retiennent mieux la douleur, ont moins mal que les hommes. Vous savez, c'est le fameux truc. Sauf qu'en fait, c'est juste une construction sociologique. C'est pas du tout une construction physique. Et il faut le rappeler, en fait, qu'en fait, les femmes, on les a habituées pendant des siècles à serrer les dents là où les hommes pouvaient se plaindre, vous voyez. Et qu'en fait, c'est juste sociologique. C'est pas du tout, la douleur est la même.
Oui, c'est ça. C'est pas une différence. Oui.
Et chez les nourrissons, c'est pareil. Il y a encore des médecins qui pensent que les nourrissons n'ont pas de nerfs. Vous savez, pendant des siècles, on a pensé que les nourrissons n'avaient pas de nerfs. Et tu sais, on peut les opérer à vif. Et oui, et ça s'est fait. Hein. Donc du coup, voilà. Donc, vous voyez, c'est tout un tas de préjugés. Et ils disent, il va falloir revenir vraiment à la base, et notamment sur les préjugés racistes, parce que on a un réel problème face à tout ça. C'est-à-dire qu'il faut arriver à briser les racismes. Et alors, dans une autre étude qui a été faite à New York, ils se sont rendus compte qu'à New York, en fait, la même étude donnait des résultats beaucoup plus faibles. C'est-à-dire que les préjugés raciaux à New York étaient beaucoup moins marqués qu'ailleurs, que dans le sud des États-Unis. Et en fait, les sociologues qui ont mené cette étude ont estimé qu'en fait, c'était lié au métissage. New York est la ville la plus métissée des États-Unis, et que donc du coup, alors métissage, parce qu'il y a plein d'ethnies différentes qui vivent ensemble, mais surtout parce qu'il y a plein d'ethnies qui se marient entre elles. C'est-à-dire qu'à New York, aujourd'hui, c'était une des premières villes où ils ont retiré de la carte d'identité le fait que vous étiez afro, machin, américain, parce que des gens se retrouvaient avec des listes très longues. Donc du coup, ils disent, bah voyez, en fait, le métissage nous oblige à repenser une médecine universelle. Et c'est ça qui est intéressant.
Mais oui, mais alors, peut-être que je me trompe, hein, vous me le direz, mais est-ce que... C'est aussi très compliqué parce que je trouve... Enfin, après, j'ai peut-être une erreur de lecture, mais vu que la société américaine, elle est quand même très fondée sur le communautarisme, est-ce que le communautarisme ne tend pas à... Comment dire ?
Mais il exacerbe ces choses-là. D'ailleurs, c'est ce que disent l'étude qui a été faite à New York, ils arrivent à cette conclusion-là. C'est-à-dire que le communautarisme exacerbe les idées préconçues et reçues.
Ouais, les préjugés. Évidemment, vu qu'il n'y a personne qui se rencontre, etc.
Exactement.
On reste sur des idées fixes.
Mais que du coup, dans une ville où les gens se croisent et se métissent plus, donc du coup, il y a moins de communautarisme et plus
de mélange,
vivre ensemble et de mélange, vous avez une diminution de ces préjugés, y compris dans la médecine. Et donc, ils disent, bah voilà, vous voyez, il y a quand même quelque chose. Et c'est très intéressant parce qu'ils ont été très, très mal vus, dans cette étude-là, a été très mal vus par le sud des États-Unis et par un candidat à la présidentielle américaine qui s'appelle Donald Trump, qui rejette en fait cette idée-là, alors qu'en fait, c'est juste la plus belle des idées de se dire que quand on se mélange, on est plus fort et on est un peu moins con.
En même temps, je crois que ce Trump a eu le soutien d'un des créateurs du Ku Klux Klan.
Non, mais je m'attendais pas à un truc bien de lui.
C'est
hein.
ça,
mais c'est juste que, vous voyez que c'est des débats qui sont pas cantonnés juste à la médecine et qui, comme ça a été sorti par Los Angeles Times, par New York Times et par plusieurs autres grands journaux, et que ça a été repris sur des chaînes américaines très suivies et qu'ils en ont même parlé dans des late shows qu'adorent les Américains, du coup, c'est devenu un sujet où ça a été pris à bras le corps et qu'en fait, il y a plein de médecins qui rappellent que toute la pensée racialiste et raciste américaine des années 60, ségrégationniste qu'on a réussi à abolir, n'était basée que sur des conneries et qu'il serait temps en 2016 de revenir sur des fondamentaux et de le rappeler fortement. Et c'est intéressant de voir que ce mouvement-là reprend un petit peu aux États-Unis du poil de la bête parce que il est hyper fondamental pour le vivre ensemble et notamment pour que les gens soient soignés correctement, ce que je le rappelle, ça part de l'idée quand même que quand vous êtes afro-américain aux États-Unis, qu'on vous identifie comme noir, on va moins vous donner d'antalgiques sous prétexte que vous avez moins mal dans beaucoup d'établissements et ça c'est pas normal.
Carrément.
Voilà. C'est quand même la base ça part de ça et c'est quand même un peu glaçant quand même.
Carrément.
Voilà. C'était juste pour reparler de ce sujet parce que je le trouvais plutôt intéressant.
Mais c'est intéressant.
Et je vous invite d'ailleurs à aller sur le site Slate parce qu'ils mettent les liens de toutes les
études.
Les études et elles sont un peu longues et en anglais, mais elles sont intéressantes.
Ok. Voilà. On passe à...
Eh ben, à la musique.
À la musique.
Vous êtes toujours à l'écoute de La Causerie sur Radio Canu et on vient d'écouter Talk Amongst Yourselves du groupe Grand National.
Eh ben, c'était bien.
C'était ouais, sympa.
C'est sympa. Comme un blocage.
Non. Mais non, c'est parce qu'on se demandait si t'allais dire qu'ils étaient anglais, tout ça ou pas en fait.
Bah tu viens de le dire en fait.
Bah voilà.
C'est dit. Bon, bah vu l'heure et qu'on est un peu à la bourre comme à notre habitude, on va essayer d'aller rapidement au bref de cette semaine, enfin de la semaine à venir.
Et bah, je te laisse commencer. J'arrive.
C'est ça. Et ben ça commence demain soir, lundi 11, donc de 19 à 20h, il y a un rassemblement devant le consulat de Pologne au 79 rue Crillon dans le 6e arrondissement de Lyon. C'est à l'appel de plusieurs collectifs, asso et autres. C'est laisser nos ovaires tranquilles. Vous devez peut-être savoir ces dernières infos, c'est qu'en Pologne, il y a l'idée d'interdire l'IVG. Et que,
avec l'appui de l'Église polonaise.
Bien évidemment, rappelons-le, les religions ne sont jamais très loin de l'ordre.
L'extrême droite au pouvoir et l'Église polonaise.
C'est ça, l'extrême droite et l'Église et l'ordre moral revient donc au galop. N'oublions pas non plus que l'année dernière, ou il y a deux ans, c'était les Espagnols. Oui. Enfin voilà, il n'y a aucun droit qu'on a acquis à vie, jamais. Il y aura toujours des réactionnaires qui voudront les enlever. Donc voilà, c'est l'occasion de leur dire non. Et d'apporter le soutien aux meufs en Pologne. Aussi.
Et moi, je continue avec le 12 mardi soir. Vous allez aller à une soirée. À une soirée présentée par Stop Harcèlement de Rue. Et ce sera au Live Station DIY. Le Live Station, c'est rue Pasteur à la Guillotière. Voilà, ça va être au 20 et quelques, je crois, de la rue Pasteur. Et c'est à 19h30. Voilà, c'est autour de la semaine contre le harcèlement de rue. Voilà, donc vous allez aller faire plusieurs activités durant cette soirée. Ça va être bien sympa. Et puis voilà. Et on continue.
Ouais, on continue. C'est à toi, je crois.
Ah, c'est à moi, pardon. Ah oui, 24 heures. Voilà, mais je suis désolé, on s'était.
Ah non, je les ai aussi. Ah, c'est oui. Les 24 heures de de lutte paysanne. Et ça se passera sur les ondes de Radio Canu. Donc c'est la semaine prochaine, c'est de samedi 15h à dimanche 15h. Donc c'est vraiment 24h de radio non-stop.
Ouais.
Il devrait y avoir des échanges, des rencontres, enfin des débats, etc. Je n'ai pas tous les tenants de ce qui va s'y passer, mais renseignez-vous.
On peut dire aux gens que comme c'est autour de l'émission Paysans et Paysannes dans la lutte des classes, on vous invite, qui est sur Radio Canu, on vous invite à aller voir leur blog, parce qu'ils vont mettre sûrement tout le déroulé sur leur blog, donc vous pourrez voir un peu ce qui s'y passe. Voilà.
C'est ça.
Et le samedi 16... à 16h, comme ça vous retiendrez, samedi 16 à 16h, il y a la présentation du dernier numéro du journal L'Envolé. Alors ça c'est un journal qui donne la parole à des prisonniers et à des proches de prisonniers. Voilà, c'est un journal autour de l'univers carcéral et anticarcéral, et c'est en partenariat avec l'émission La Petite Cuillère, qui est aussi sur Radio Canu. Voilà.
C'est ça, tous les 15 jours
En alternance
avec Papillon, voilà. Qui est une émission de synthé, je crois.
De Radio Duo synthé.
Voilà. Et puis, si samedi, vous avez toujours encore de l'énergie à revendre, et
on n'en doute pas,
vous pouvez aller à la ruche. Alors, ça doit être à Villefranche, je ne sais pas trop. Je vais en profiter pour dire, les gens, si vous avez fait passer votre annonce sur Rebellion, il n'y a aucune adresse. Oui. Donc, c'est un peu dommage. Voilà. Mais je compte sur le comité rédactionnel de Rébellion pour changer tout ça. Donc c'est le comité de soutien Notre-Dame-des-Landes de Villefranche-Beaujolais qui à 19h organise la projection du film Dernier Continent. Pardon. C'est un film qui a été tourné entre 2012 et 2014 sur la ZAD de Notre-Dame et qui parle aussi de ses habitants. Ouais. Et tout ça sera suivi, ça c'est les bons moments aussi, d'échanges et d'une bouffe. Voilà. Ça permet de continuer les échanges aussi de manière un peu plus informelle, toutes ces choses-là. Mmh. Voilà.
Et j'en profite quand on parle de la ZAD pour vous inviter à suivre ce qui se passe autour des 13 de Villeurbanne, parce qu'il y avait eu une action qui avait été menée de murage de la permanence PS de Villeurbanne en protestation contre la ZAD. Alors murage, c'est monter des petits moellons devant la porte, mais alors regardez les photos, c'est pas monté très haut.
Il y avait 10 parpaings, quoi.
Voilà. Mais en tout cas, le Parti Socialiste menace toujours de porter plainte, et donc ces personnes risquent quand même d'aller, ça peut aller jusqu'à la tôle quand même, donc il y a un moment donné, je vous invite à suivre un peu ce qui se passe et à les soutenir du mieux possible.
C'est voilà. ça. Et puis, comme aussi avec les arrestations qu'il peut y avoir avec les mouvements sociaux en ce moment.
Tout à fait.
Il y en a eu pas mal aussi sur Paris, etc.
Ouais, donc, sur Lyon aussi. Il y a eu des
et sur
des
Lyon aussi. Donc, voilà. N'hésitez pas aussi, enfin, à la rigueur, je le dis aux personnes ou autres, n'hésitez pas à contacter comme Radio Canu et autres pour faire passer des infos et tout ça et tout ça. N'hésitez pas.
Et d'ailleurs, je rappellerai que le micro de la causerie est ouvert. Donc, si vous avez besoin de témoigner ou si vous avez besoin de parler de certaines choses autour de tout ça, ce sera avec grand plaisir qu'on vous laissera la parole.
Voilà. C'est ça. Bon. Ah, vas-y.
Mais on dira après avec quoi on se quitte, parce que je voulais dire avec quoi on se quitte.
Ouais, mais enfin là, j'allais dire, on se fait des bisous.
Oui, des bisous.
On se fait des bisous, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de soirée, une bonne nuit, bon courage pour la semaine à venir. Et ouais. puis, on se quitte avec quoi ?
Eh bien, comme on parlait des mouvements sociaux contre la loi El Khomri, on parlait d'ailleurs d'acquis qui n'étaient pas acquis à vie, en voilà un bel exemple, il va falloir continuer encore à aller dans la rue et à faire d'autres actions pour empêcher cette loi de passer. Et pour nous encourager à faire tout ça, on a décidé à la causerie de vous passer le combat ordinaire des Fatal Picard. Je vous conseille d'écouter les paroles, ça fait du bien. À la semaine prochaine.
C'est ça, des bisous. Merci. Ciao,
Claire,
ciao.
Pour la technique.
Ciao.
Une vie transparente, soudée à mon usine. La casquette de travers, j'avais la classe ouvrière. C'était toute ma vie, mon droit à la misère. Jusqu'à cette lettre qui dit encore merci. C'est ça au RMI dans un faubourg de Varsovie. J'ai rien contre la Pologne, à part peut-être un pape ou deux. Mais dans ma ville du Nord, le gris du décor est plus bleu. Mais je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer de grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Pour que continue le combat ordinaire. Si mon vieux me voyait, il serait fier de moi. Lui qui était communiste, comme on porte une croix. S'il existe Dieu pour les mineurs syndicalistes, j'espère qu'au paradis les anges sont un peu marxistes. Chez nous le chômage fait partie de la famille, comme l'amiante, l'oubli, la silicose et les terrils. Quantité négligeable dont la vie ne tient qu'un fil. Certains soignent la peur du vide à coups de 21 avril. Mais je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer de grève comme on pique une colère. Sais-tu que tous les vieils hommes et la mère, pour que continue le combat ordinaire. Moi je sais planter des clous, moi je sais rester debout. Moi je sais souder à l'arc et moi je n'ai jamais le trac. Et moi je sais la peur du vide, moi je n'ai pas pris une ride. Moi je sais toucher le fond et j'ai du charbon sur mon front. Et moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens. Et moi j'ai le sens du combat, moi j'ai des cales sous mes doigts. Moi j'ai toujours mes mains d'or, moi je voudrais vivre encore. Et moi j'ai plus de 50 piges, moi je n'ai jamais le vertige. Moi je sais rester de glace devant le temps qui je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer de grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Pour que continue le combat ordinaire. Yeah.